Un glissement de terrain mortel à Tahiti, le dernier bilan fait état de 4 morts. Sur le territoire, un incendie est en cours sur le site d'enfouissement des déchets de Pointe-Boute. 7800 entreprises ont bénéficié de Sudpro, 1,7 milliard de francs ont ainsi été injectés dans l'économie calédonienne. De pionnière à visionnaire, la délégation régionale des femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie célèbre ses 40 ans d'existence. Et puis le sport avec du padel, le coup d'envoi dans quelques minutes des quarts de finale de la Casino Padel Cup. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, un drame ce matin en Polynésie française sur l'île de Tahiti. Un glissement de terrain, Jean-François Baudin a emporté 2 maisons, il y a au moins 4 morts.
L'éboulement s'est produit dans le village d'Afahiti, dans une région arrosée par des pluies incessantes depuis une semaine. La coulée de boue a emporté une première maison qui s'est ensuite encastrée dans une autre maison et les deux habitations ont été ensevelies. Le haut commissaire de Polynésie française, Alexandre Rochat, s'est rendu immédiatement sur place.
On est donc en train en ce moment de faire les recherches pour déterminer si effectivement il y a des personnes qui sont sous ces décombres et quel est leur état de santé. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elles sont disparues, ça ne veut pas dire que pour l'instant on sait si elles sont là, on est en train de les rechercher. Vu la configuration du terrain, la mobilité du terrain, vous avez vu qu'il y a eu des éboulements depuis ce matin, rien n'est stable, ça va prendre énormément de temps. Parce qu'il y en va de la sécurité, évidemment, de ceux qui interviennent, mais aussi de la sécurité potentiellement des gens qui sont à l'intérieur. On est susceptible d'avoir une opération qui va durer 24 heures, 48 heures, voire même plus loin, si c'est nécessaire.
Des propos recueillis par nos confrères de Radio One. 40 pompiers, 20 gendarmes, 30 policiers aidés par des militaires, 3 drones et un hélicoptère dauphin sont mobilisés pour les opérations de secours. À cette heure, 4 corps ont été retirés des maisons ensevelies, mais 4 ou 5 autres personnes sont portées disparues et les recherches se poursuivent pour tenter de les retrouver. Par mesure de précaution, 29 maisons alentour ont été évacuées.
Direction l'Australie. À présent, une jeune touriste suédoise a été tuée, son compagnon gravement blessé. C'était lors d'une attaque de requins. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Selon plusieurs témoins, le drame s'est produit aux environs de 6h30 au large d'une plage difficile d'accès du parc national de Crowdy Bay, situé à 280 km au nord-est de Sydney. Une jeune Suédoise d'une vingtaine d'années et son compagnon, lui aussi scandinave, avaient décidé de se baigner à l'aube lorsque le couple a été attaqué par un large requin d'origine inconnue. La jeune femme n'a pas survécu, tandis que le jeune homme, dont une jambe avait été broyée, a sans doute été sauvé par un témoin du drame qui lui a posé un garrot. Il a été transporté par hélicoptère vers l'hôpital de Newcastle, où son état de santé a été qualifié de critique. Par précaution, toutes les plages de la région ont été fermées jusqu'à nouvel ordre. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Sur le territoire, avec le début de la saison chaude, les requins sont également plus présents aux abords des zones de baignade. La mairie de Nouméa appelle les usagers du littoral à faire preuve de prudence. Elle a indiqué ces derniers jours que plusieurs requins tigres et bulldogs ont été observés à proximité des plages et des îlots de Nouméa. On se souvient de la série d'attaques qui avait provoqué beaucoup d'émotions il y a 3 ans déjà. Depuis, la mairie de Nouméa a sécurisé 2 zones de baignade protégées par des filets à la baie des Citrons et au Château Royal. Dans cette période, il est donc plus que jamais conseillé de se baigner dans ces zones protégées qui permettent de rassurer les nageurs, explique Tatiana Chongfat, chargée de projet à la ville de Nouméa en charge du risque requin.
Depuis l'installation de la zone de la baie des Citrons, donc c'est-à-dire décembre 2023, on a bien constaté une augmentation de la fréquentation, bien spécifiquement dans les zones qui sont sécurisées. Et on voit bien qu'à côté, on a quand même beaucoup moins de gens, ou alors les gens vont beaucoup moins loin. Ils restent vraiment sur les 10 premiers mètres de la plage. Il y a eu une prise de conscience de chacun. Après, là, ça va quand même faire déjà 2 ans qu'on s'éloigne de ces attaques. Donc, on rappelle effectivement les bonnes consignes à chacun. C'est-à-dire, allez dans les zones sécurisées, ne prenez pas de risques, fiez-vous à la signalétique qui vous indiquera donc les zones où il faut ou pas se baigner, s'il y a des risques, et lesquels sont-ils sur ces zones. En cas d'observation d'un requin à proximité des zones fréquentées, il est demandé d'informer soit les pompiers au 18, soit le COSNC au 16. Par contre, on ne demande pas de signaler les requins qui sont au loin, dans le récif, en plein milieu du lagon.
Personne n'est obligé de ne fréquenter que les zones de baignade protégées, mais la mairie rappelle qu'en dehors de ces zones, la baignade et les activités nautiques se font au risque et péril des usagers. Au chapitre des faits divers, l'ISD de Pointe-Boute, située plaine des Gaillacs, est depuis cet après-midi la proie des flammes. L'intervention des sapeurs-pompiers, Léana Colombo, a débuté aux alentours de 15h.
Oui, la sécurité civile, les pompiers et du personnel de la commune sont mobilisés pour tenter de diminuer les flammes et les fumées avant que la nuit ne tombe. La surface incendiée serait assez conséquente et selon nos informations, le feu serait parti d'un des sites enfouis dans les installations de stockage. Parfois, des déchets type batterie sont jetés dans les bacs et ne sont pas complètement vidés, ce qui peut faire des étincelles et ensuite déclencher un incendie accidentel. C'est ce qui était déjà arrivé le 2 août dernier dans ces mêmes installations.
Et j'ajoute que dans le Grand Nouméa, les pompiers sont également intervenus cet après-midi sur un incendie ayant touché le château d'eau situé derrière le Dimbéamol. D'autres incendies ont été éteints ce jour par les soldats du feu au niveau du Pic aux Morts. Justement, découvrir au plus près le travail des pompiers et se glisser quelques instants dans la peau d'un soldat du feu. Samedi, le centre Lucien Parent de Nouméa organise une journée porte ouverte à destination du grand public. Géraldine Bourgoin, chef de corps des pompiers de Nouméa, sera notre invitée demain matin à 7h30. L'occasion aussi d'évoquer avec elle les conditions d'intervention des pompiers qui sont régulièrement prises à partie alors qu'ils agissent pour sauver des vies. Notez que le centre de secours de Dimbéa, qui fête lui ses 30 ans, organise lui aussi une journée porte ouverte. Ce sera ce samedi. Les audiences ont repris ce jeudi aux assises de Nouméa. Depuis ce matin, la cour examine une affaire de mœurs. Un jeune homme de 20 ans est accusé d'avoir violé sa petite amie en mai 2022 au Mont d'Or. Le procès est prévu pour durer 2 jours, jusqu'à demain donc. Pour rappel, l'affaire en appel d'un meurtre à Wallis et Futuna qui devait avoir lieu en début de semaine a été reportée pour des raisons personnelles concernant l'un des deux accusés. Un contretemps pour la mission des hauts fonctionnaires Thierry Lataste et Benoît Lombrière. Ils devaient arriver demain sur le territoire, mais ce déplacement est reporté, Elisabeth Noir.
Oui, l'information rendue publique hier par l'Union calédonienne avait été confirmée. Thierry Lataste et Benoît Lombrière étaient attendus ce vendredi en Nouvelle-Calédonie pour poursuivre les discussions dans le cadre de l'accord de Bougival. Finalement, leur venue a été annulée, ou au moins reportée, pour des raisons qui n'ont pas été rendues publiques, mais qui tiendraient à la composition de cette délégation. On rappelle qu'il s'agit de l'ancien haut-commissaire Thierry Lataste, qui connaît très bien le dossier calédonien, et de Benoît Lombrière, qui était le conseiller outre-mer de Nicolas Sarkozy, quand celui-ci était président de la République, et qui a participé en juillet aux négociations de Bougival. Toujours est-il que l'annonce ce matin du report de leur déplacement a vivement contrarié l'UNI, à tel point que le groupe a refusé de participer à la réunion de la commission qui devait examiner le projet de loi sur l'organisation de la consultation anticipée de la population calédonienne sur l'accord de Bougival, un projet de loi pour lequel le Congrès est sollicité pour avis. La commission s'est tenue sans le groupe UNI, mais elle a émis à la majorité un avis favorable sur le projet de loi. Un avis favorable émis par les loyalistes et le rassemblement. Le groupe UCF-LNKS, sans surprise, a voté contre. Les élus calédoniens ensemble et Éveil océanien ont réservé leur vote pour la séance publique du Congrès. Une séance publique qui devait se tenir le 3 décembre. Mais étant donné les circonstances, elle pourrait être reportée au 10. Le temps peut-être de reprogrammer la mission de Thierry Lataste et Benoît Lombrière.
Et en attendant, l'Union calédonienne a été déboutée par le Conseil d'État. Elle avait déposé un recours contre la publication du texte au journal officiel, mais le Conseil d'État considère que ce n'est pas de la compétence de la juridiction administrative, Elisabeth Noir.
L'Union calédonienne, on le sait, veut utiliser tous les leviers, y compris juridiques, pour faire échouer Bougival. C'est dans cette logique qu'elle avait déposé un recours auprès du Conseil d'État pour contester la publication le 6 septembre au journal officiel de la République française du texte de l'accord de Bougival. L'UC contestait cette publication parce que le texte signé le 12 juillet y était présenté comme un accord et non un projet d'accord. Elle relevait également que le texte était publié sans la page de recueil des signatures et sans la mention selon laquelle les partenaires s'engageaient à présenter et à défendre le texte en l'état. Dans son recours, l'Union calédonienne considérait également qu'il y avait eu un détournement de pouvoir dans la mesure où ce texte sert de base à une proposition de loi organique visant au report des élections provinciales. Et enfin que cette publication portait atteinte aux intérêts de l'UC et du FLNKS en laissant penser que ces deux mouvements approuvent le texte. Le Conseil d'État n'a pas retenu ces arguments. Dans sa décision, il relève que la publication de l'accord de Bougival est indissociable de la décision du gouvernement de déposer au Parlement un projet de loi de révision constitutionnelle y faisant référence. Et au nom de la séparation des pouvoirs, c'est ce qui l'empêche de se prononcer. Le Conseil d'État explique que les décisions qui mettent en jeu les rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement ne relèvent pas de la compétence du juge administratif en vertu du principe de séparation des pouvoirs. Il décide en conséquence que les requêtes de l'Union calédonienne sont rejetées.
Direction le Congrès à présent où étaient Finances publiques et Innovation étaient au menu de la séance publique qui se déroulait ce matin. Les travaux ont débuté par l'examen du rapport de la Chambre territoriale des comptes relatif à la gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth.
Dans ce rapport qui concerne les exercices 2019 et suivants, la Chambre territoriale des comptes met en avant une évolution maîtrisée des effectifs de la Nouvelle-Calédonie avec une légère diminution de 0,3% entre 2019 et 2024. Mais elle met en garde sur plusieurs points comme l'encadrement et le nombre des chargés de mission. La Chambre alerte également sur l'emploi des collaborateurs de cabinet et elle formule aussi des rappels aux droits concernant par exemple le versement de primes et indemnités sans base légale. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a réagi à ce rapport lors de la séance publique.
C'est aussi une certaine forme de pratiques politiques qui se sont déroulées pendant des années et qu'on se retrouve aujourd'hui à gérer. Il y a beaucoup de choses qui sont engagées aujourd'hui pour essayer de corriger et résorber ce qui, peut-être, à un temps donné, a été laissé à la dérive. Donc oui, président que je suis aujourd'hui, je m'engage à ce que tout ça soit résorbé, soit corrigé.
Et un amendement a été adopté pour que des mesures soient adoptées avant le 31 décembre 2025. Le chef du groupe Rassemblement, Virginie Ruffnacht, a quant à elle rappelé que ce rapport concerne des pratiques constatées avant le 18e gouvernement, puisqu'il étudie la période 2019 à 2024.
Et parmi les autres textes examinés, un projet de délibération relatif à la stratégie pays de l'innovation.
Le gouvernement propose en effet de créer une agence de l'innovation qui permettrait aux organismes de recherche, aux bailleurs de fonds, aux acteurs économiques et aux collectivités de discuter ensemble des stratégies en matière d'innovation pour la Nouvelle-Calédonie. Le projet est porté par Petelo Sao, membre du gouvernement en charge du secteur.
L'objectif, c'est déjà de structurer la gouvernance de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Le Conseil pays de l'innovation décidera s'il faut créer ou pas une agence pour l'innovation. Mais au moins, c'est de valoriser le travail qui a été fait et de souligner les recommandations qui ont été fournies à la fois par les chercheurs, à la fois par les instituts de recherche, mais aussi les milieux économiques et puis nos bailleurs de fonds. Favoriser aussi les porteurs de projets là où ils sont et les accompagner à développer leur activité et leur dire que leurs idées sont de bonnes idées et qu'ils peuvent avoir confiance en l'innovation. C'est leur donner une meilleure visibilité, c'est leur donner aussi des moyens financiers, et puis c'est leur apporter une certaine lumière sur leur activité pour pouvoir se développer aussi.
Plusieurs élus se sont montrés réticents, notamment ceux du groupe loyaliste qui s'inquiètent d'un empiètement sur les compétences des provinces et qui soulignent que dans un contexte de réforme économique, il vaut mieux ne pas engager de nouvelles dépenses ni créer de nouveaux organismes. Le projet de délibération a été adopté à la majorité. Mais le groupe Les Loyalistes a voté contre. A noter par ailleurs le report de l'examen du projet de loi du pays portant différentes mesures en matière de concurrence. Les élus ont en revanche procédé à des ajustements de la composition des commissions du Congrès et des représentants dans les organismes extérieurs concernant les élus de Calédonie ensemble.
C'est le président du gouvernement, Alcide Ponga, qui sera demain votre invité dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur ses déplacements dans la région Pacifique et notamment en Polynésie française, mais aussi sur des sujets d'actualité comme le transfert d'Aircal à Tontouta ou la préparation du budget de la Nouvelle-Calédonie. Alcide Ponga s'exprimera aussi sur l'accord de Bougival dont il est l'un des signataires. Un magazine Transparence à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. 17h59, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslégales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info Soir, Léo Fichou.
Sudpro a rencontré un franc succès. La province Sud dressait le bilan de son dispositif qui avait pour objectif d'aider les petites entreprises en relançant la consommation. Léana Colombo.
La province Sud prenait en charge des factures pour un montant de 250 000 francs. 7 800 entreprises en ont bénéficié pour payer 14 000 factures d'un montant total de près d'1,7 milliard de francs. Les secteurs des services, du BTP et du commerce ont été ceux qui ont le plus sollicité la province Sud. Sonia Baquès, la présidente de la province Sud.
11 000 entreprises qui ont pu s'inscrire sur la plateforme. 84% de ces entreprises ont pu faire des achats qu'elles n'auraient pas fait si la plateforme n'avait pas existé. Globalement, on a donc un taux de satisfaction important et globalement 1,7 milliard dépensés pour des petites entreprises qui n'avaient pas été aidées par l'État dans le cadre des différents dispositifs. Quand on donne simplement une subvention, la subvention, des fois, elle meurt, entre guillemets, à l'intérieur de l'entreprise parce qu'elle n'est pas redépensée ailleurs. Là, clairement, il y a un effet levier parce que cet argent qui a été donné aux petites entreprises a été dépensé dans les entreprises calédoniennes et pour plus de 50% dans les petites entreprises calédoniennes. Donc, ils ont dépensé entre eux pour 55% des dépenses. Donc, clairement, ça a fait marcher ce tissu économique qui, finalement, constitue la très grande majorité du tissu économique calédonien.
Pour 2026, Sudpro va continuer, mais il va évoluer.
Sudpro va continuer puisqu'on a inscrit dans le budget de la province qui sera adopté le 4 décembre prochain 500 millions sur la plateforme Sudpro. Donc Sudpro va continuer, sans doute de manière différente de ce qui a fonctionné aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on prenait 100% des factures dépensées par les petites entreprises parce qu'on voulait un vrai coup d'accélérateur à des entreprises qui étaient en grande souffrance. Là, ce sur quoi on travaille, c'est un Sudpro nouveau dans lequel en fait la province va bonifier le paiement des factures, en payer une partie, un peu comme ce qu'on fait sur Sud Sécurité, où on paye 20-30%, avec l'idée de se focaliser sur des entreprises qui sont peut-être plus en souffrance que d'autres, certains secteurs qui sont plus en souffrance que d'autres, d'avoir des campagnes qui permettent de répondre aux difficultés particulières de certains secteurs.
Autre dispositif nouveau qui doit être voté le 4 décembre prochain en Assemblée de Province Sud est destiné aux TPE et aux PME. Il s'agit d'un produit bancaire de cofinancement. La société doit apporter via une banque ou ses actionnaires 50% du montant du projet. La province Sud et BPI France complètent l'enveloppe. On retrouve Sonia Baquès.
On a un nouveau dispositif qui répond à ce qu'on a entendu de la part d'un certain nombre d'entreprises, peut-être un peu moins petites, peut-être de taille moyenne, qui nous disent on a beaucoup de mal en fait à avoir accès à des lignes de trésorerie, à nos besoins en fonds de roulement sont pas couverts parce qu'en fait souvent on a consommer notre trésorerie pour tenir, on arrive un peu au bout. Ou alors, on a des investissements à faire et on n'a pas le cash nécessaire pour faire ces investissements qui nous permettraient de redémarrer. Et les banques, souvent, demandent beaucoup de garanties qu'ils n'ont pas forcément, ni à titre personnel, ni au titre de l'entreprise. Donc là, on a un nouveau dispositif qui s'appelle Sud Relance, qui est un dispositif en partenariat avec la BPI, qui permet en fait que là où la province met un franc, ça permet à l'entreprise d'avoir accès à un crédit jusqu'à 6,8 francs, avec une absence de garantie et de frais de dossier et un taux de crédit à 3,48%. Donc, on a finalement un dispositif simplifié qui permet aux entreprises d'avoir accès à de la trésorerie plus facilement pour des montants entre 6 et 36 millions de francs pacifiques.
Les entreprises auront 5 ou 7 ans pour rembourser cet emprunt. C'est donc BPI France qui décidera de valider ou non ces emprunts et qui assumera le risque financier.
La Chambre de métiers de l'artisanat accueillera le public dès le mardi 2 décembre dans ses nouveaux locaux à Ducos. Elle quitte demain ses locaux historiques qu'elle occupait depuis 30 ans à Nouville-Elisabeth.
Et ce déménagement est la suite du conflit qui a opposé la Chambre des métiers au port autonome pour une histoire de loyer trop élevé et impayé. Mais la présidente de la Chambre de métiers, Elisabeth Rivière, voit dans cette situation une opportunité. La Chambre de métiers et de l'artisanat emménage en effet dans de nouveaux locaux dans le complexe Ducos-le-Centre. Cela va renforcer la proximité avec les entreprises artisanales, tout en maintenant un accès facile aux services de la Chambre.
Rien n'arrive par hasard dans la vie et je crois qu'il était peut-être temps que nous nous rapprochions de nos artisans. Aujourd'hui, ils ont besoin de cette proximité. Et ce conflit nous permet en fait de nous rapprocher de nos ressortissants et de leur apporter exactement les mêmes services qu'il y avait auparavant, mais plus proche de leur lieu d'activité pour ceux qui sont implantés sur du coast. Et pour ceux qui ne le sont pas, beaucoup vont dans cette zone pour pouvoir acheter des produits ou aller à la rencontre d'autres artisans pour travailler ensemble.
Le nouveau siège social sera donc à Ducos-le-Centre, aux 30 routes de la Baie des Dames. Des locaux en rez-de-chaussée pour être facilement accessibles et qui seront dotés de parkings. Ce sont notamment les anciens locaux de l'entreprise Socook et d'Action Entreprise. et la Chambre de métiers a décidé de les acheter.
Nous avons décidé carrément d'acquérir des locaux pour ne plus se trouver soit en difficulté ou avoir des fluctuations des loyers. Aujourd'hui, les loyers sont forcément beaucoup moins élevés qu'auparavant, mais on pense à nos générations futures et comme les loyers fluctuent, ils pourraient augmenter dans les prochaines années. Mais surtout, nous allons laisser un patrimoine aux futurs artisans et à ceux qui nous succéderont.
Ça veut dire que la Chambre avait les moyens de faire un investissement immobilier?
Nous avions les moyens et nous l'avons toujours dit parce que nos prédécesseurs ont toujours travaillé dans cet esprit et nous avions déjà prévu l'an passé d'aller nous installer sur Ducos, mais nous avions un compromis de vente que nous devions signer au mois de mai. Mais les émeutes étant passées par là, nous avions préféré garder le capital que nous avions pour maintenir l'ensemble des salaires de nos agents parce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était en grande difficulté financière et que les centimes additionnels qui nous étaient dus pour cette année n'avaient pas pu être versés. Donc il fallait qu'on garde cette trésorerie pour maintenir le travail pour nos agents, mais surtout le soutien aux artisans qui, je crois, sur cette période, était encore plus nécessaire qu'aujourd'hui.
Des locaux achetés par la Chambre de métiers et qui ont été aménagés, bien sûr, par des artisans, ce qui a créé de l'activité. L'accueil du public se fera dès le mardi 2 décembre. L'ensemble des services destinés aux artisans et aux porteurs de projets restera pleinement accessible pendant toute cette période de réinstallation. Reste la question des salons que la Chambre a organisés dans ses locaux de Nouville. Il y a quelques semaines, le salon Batexpo s'est tenu sur le parking de la Moselle et c'est une solution qui devrait être retenue. En attendant, les locaux de Nouville seront fermés au public à partir de demain vendredi et la Chambre de métiers et de l'artisanat accueillera le public dès le mardi 2 décembre dans ses nouveaux locaux de Ducos.
L'export peut aussi ouvrir des débouchés aux artisans. Deux d'entre eux ont participé début novembre au salon Made in France à Paris. Une première qui a été un succès et dont nous avons parlé dans les Jeudis de l'économie, Jean-François Baudin.
Cela fait maintenant plusieurs années que les acteurs économiques calédoniens s'organisent pour exporter les produits locaux qui s'y prêtent. C'est déjà le cas pour certains produits agroalimentaires, pour la tech, mais aussi pour l'artisanat. La Chambre de métiers et d'artisanat a permis à deux artisans de se rendre au salon Made in France en apportant un soutien logistique et financier, a expliqué Laura-Marie Rivière, la présidente de la commission communication et rayonnement de la CMA.
Malgré la baisse de nos fonds propres, on a quand même décidé de se lancer dans l'export et surtout de continuer d'accompagner en fait nos artisans qui ont envie d'entamer des démarches vers l'export. Donc nous, on essaye de les accompagner au mieux en termes financiers avec tout ce qui va être budget, financement pour le transport, l'envoi de la marchandise, l'hébergement, les billets d'avion. Mais il y a un accompagnement derrière aussi qui est au niveau de la gestion des stocks, la démarche commerciale. Et on va avoir aussi tout ce qui est communication et la fixation des prix parce qu'on est sur de nouveaux marchés, sur des nouvelles cibles. Donc tout ça, il faut bien l'adapter pour que ça puisse correspondre et évidemment avoir les meilleures pratiques pour vendre au mieux et valoriser au mieux l'artisanat calédonien.
Une créatrice de bijoux s'est donc entrée au salon Made in France ainsi qu'un sculpteur, Mélem Thiaou, qui était avec nous ce midi. Le soutien de la Chambre de métiers et de l'artisanat est essentiel, mais il faut aussi s'impliquer personnellement pour la réussite de ce type d'opération, a-t-il expliqué.
En fait, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Avant cet événement, je suis très sur les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de marketing sur ces réseaux pour que la mission soit un succès. Franchement, c'est ce qui a fait le succès. C'est que j'avais déjà préparé mon salon avant même d'aller là-bas. Comme ça, les potentiels clients qui voulaient y aller, ils ont vu sur les réseaux sociaux que j'allais y être. Donc, du coup, ils ont répondu à l'appel en allant. Mais je veux dire, si on va juste en croisant les bras, en mettant pas tous les efforts de notre côté, là, il y aurait plus de stress. Donc, moi, sur ce niveau-là, j'avais pas trop de stress parce que j'avais déjà prévu et préparé en avant ce salon.
Un salon qui a été un succès pour Mélem Thiaou qui a vendu la quasi-totalité des œuvres qu'il avait emmenées et qui a eu des contacts très sérieux pour exporter ses créations. L'export est un véritable débouché économique et les collectivités accompagnent les entreprises qui souhaitent conquérir de nouveaux marchés. C'est le cas du gouvernement, a rappelé Christopher Gigès, en charge notamment du numérique, de l'économie et du budget.
Il y a plusieurs mesures, à la fois de soutien aux entreprises avec le crédit d'impôt à l'export qu'on a mis en place et qu'on souhaite rehausser pour couvrir un certain nombre de charges des entreprises calédoniennes. Il y a un accompagnement avec Team France Export qui peut offrir des formations, des études de marché, des structures particulières. Et ensuite, il y a des déplacements qui ont déjà été organisés, notamment à Fidji, et on le fera sur la Polynésie, la Réunion, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie, il y a quelques semaines avec le président du gouvernement, où on se déplace à la fois avec les collectivités, mais également avec les entreprises pour pouvoir ouvrir un certain nombre de marchés, parce que le but, c'est de trouver des marchés.
Aujourd'hui, plusieurs acteurs, notamment les chambres consulaires ou encore le cluster NCTNI, s'engagent pour accompagner leurs adhérents qui le souhaitent à aller vers l'export. Et il faut encore accroître les synergies et les mutualisations pour structurer un secteur qui présente de réelles opportunités économiques, ont convenu les participants à cette émission que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Et puis en bref, c'est demain que débute le Black Friday. Jusqu'à dimanche, les commerçants du territoire proposeront des rabais importants sur leurs produits. Une période importante pour les magasins, mais aussi les clients en cette veille de fin d'année. L'occasion peut-être de débuter les achats de Noël en profitant de réductions. Nous en avons parlé ce matin à 7h30 avec Ronan Délé, le président du syndicat des commerçants. Une émission à retrouver bien évidemment en podcast sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec la réponse à avec la question du jour. Le transfert d'Aircal vers l'aéroport de Tontouta a été officialisé et fixé au 2 mars 2026. Êtes-vous satisfait de cette décision? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, à présent à l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent inquiétant que régulièrement des paquets de cocaïne soient retrouvés sur le littoral calédonien. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à notre question du jour. Et justement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie appelle la population à une vigilance renforcée. Un communiqué publié ce jeudi à la suite, vous le savez, de la découverte amarrée de plusieurs paquets échoués contenant de la cocaïne. Le gouvernement rappelle que tout colis, sac ou paquet de provenance inconnue doit être immédiatement signalé aux autorités compétentes. Et avant de saluer bien évidemment le civisme des habitants de Marais qui ont eux remis les paquets aux forces de l'ordre. Cette information pratique, en bref également, vous avez été nombreux à nous signaler avoir reçu un SMS ou mail de la Calédonienne des Eaux annonçant une coupure de l'alimentation en eau si aucun paiement n'était effectué sous 48 heures. La compagnie indique qu'il ne s'agit pas d'un bug informatique, mais bien de véritables relances auprès d'environ 5000 abonnés. Ces relances concernent les factures du deuxième ou troisième trimestre 2025, ainsi que pour certains clients des factures antérieures non réglées. Il s'agit d'une opération classique de gestion invitant les abonnés à régulariser leur impayé, explique la CDE sur ses réseaux sociaux. Les personnes ayant reçu ce message sont invitées à venir régler leurs factures au plus vite en agence ou en ligne. 18h12, seconde pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants. On parlera sport, mais pas que.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le jeu Mac Family Voyage revient chez McDonald's du 18 novembre au 12 janvier. Collectionnez les cartes Mac Family et tentez de gagner plus de 6 millions de francs de cadeaux. Au programme, 3 voyages de rêve à Tahiti, en Thaïlande et à la Gold Coast. Mais aussi des PC, des Samsung S25, des Nintendo Switch 2, des Boombox et des milliers de produits McDonald's. Alors, prêt à tenter votre chance? Rendez-vous dans votre McDonald's préféré.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léo Fichou.
Le logement au cœur du rétablissement et de l'autonomie des personnes vivant avec des troubles psychiques. Ce matin, une convention a été signée par la SIC, le CHS et l'AGAT, l'association de gestion des ateliers thérapeutiques. Un dispositif innovant de colocation accompagné pour 9 patients du CHS. Des patients qui n'ont plus besoin d'être accompagnés 24 heures sur 24, mais qui ont en revanche besoin d'une période de transition avant de retrouver une vie entre guillemets normale. Les logements sont ceux de la SIC, du côté de Dumbéa. Benoît Naturel est le directeur général de la SIC. Écoutez.
Donc l'idée en fait c'est de rencontrer deux besoins, le besoin du CHS qui lui avait pour des sorties de patients qui pouvaient être stabilisés, redevenir plus des patients mais des habitants en l'occurrence, et nous qui voyons aussi dans le parc social en fait un certain nombre de familles qui d'un point de vue de la santé mentale sont fragiles mais qui faute de place ne peuvent pas être prises en charge. Donc l'idée en fait c'était un partenariat croisé en mettant à disposition des logements, 9 en l'occurrence, 9 places dans 3 logements à Dumbéa, pour que petit à petit il y ait un sas entre la période en en hôpital et la période de retour à une vie de droit commun classique. Et donc on est très contente d'accompagner ce partenariat-là et puis de continuer à lutter pour la dignité des Calédoniens.
Un véritable tremplin vers la dignité, donc, mais aussi l'inclusion et l'autonomie pour 9 patients, dont Robin, après plus d'un an au CHS et des mois de préparation. Il a hâte de démarrer une nouvelle vie en colocation.
Ouais, c'est un très bon projet que j'aime bien, je me sens bien. Voilà. La maladie aussi, elle s'en va quand on a des projets en fait en tête, mais quand on n'a pas de projet, ben, la maladie elle est là, elle est forte. Elle nous fait des idées noires et tout ça en fait. Donc ouais, je suis content, je peux retrouver une vie normale, autonome, et être, refaire ses papiers et tout ça. Travailler dans une entreprise. Je suis en colocation avec Marc et David. Des caldoches en fait, des copains à moi en fait, voilà quoi. Avec eux, je lui dis toujours black and white, black and white. On va faire les courses ensemble, on va faire des pique-niques le week-end, on va faire des, enfin, on va faire des tas de trucs quoi, des choses de la vie quoi.
Et les 9 nouveaux locataires suivis par le CHS devraient emménager dans leur logement à Dumbéa d'ici le 15 décembre. Après le froid la semaine dernière, une autre société a fait le pari de reconstruire sur le territoire. Il s'agit du groupe Office Plus qui a posé ce matin la première pierre du chantier de son nouvel entrepôt à Doniambo, Léana Colombo.
Des travaux qui débutent près d'un an et demi après la destruction de l'ancien entrepôt. Le lieu de stockage principal de la société avait été pillé puis incendié le 21 mai 2024 au moment des émeutes, mettant ainsi la moitié des effectifs du site au chômage. Après avoir mis en place des solutions provisoires, notamment en utilisant un entrepôt dans Ducos, le nouveau local va finalement être reconstruit sur le même site à Doniambo, mais avec plus de sécurité. Une décision mûrement réfléchie et symbolique, explique Pierre Kraft, le directeur général d'Office Plus.
Cet entrepôt, il avait une histoire, il a une âme, il est bien placé par rapport à nos activités, hein, très proche du centre-ville. On en est propriétaire et ça nous paraissait normal de le reconstruire de manière à ce que notre société puisse bénéficier d'un entrepôt adapté. Nous, on fait figure un peu de pionnier, puisqu'on est le premier à reconstruire dans une zone qui a été très, très, très touchée. Mais notre objectif, c'est non seulement de reconstruire nous, mais nous qui travaillons Office Plus avec toutes les entreprises de la place, on attend qu'elles aussi se remettent à croire en l'avenir, réinvestissent, reconstruisent, redéveloppent l'emploi, redéveloppent la consommation. Et à partir de là, l'économie redémarre et tout le monde sera un peu mieux qu'aujourd'hui.
Était notamment présent lors de la pose de cette première pierre le membre du gouvernement Christopher Gigès, la présidente de la province sud Sonia Baquet et le président de la CCI David Guyenne. Pour cette reconstruction, la société Office Plus a bénéficié d'une défiscalisation de près de 30% sur le coût total des travaux, estimé à 160 millions de francs. Et presque comme un symbole, la fin des travaux est prévue pour le 14 mai 2026.
De pionnière à visionnaire, la délégation régionale des femmes chefs d'entreprise Nouvelle-Calédonie célèbre ses 40 ans d'existence déjà. Et à cette occasion, Léana, un colloque était organisé ce matin à la CCI.
Et oui, des parcours inspirants de Calédoniennes, il y en a, mais peut-être ne sont-ils parfois pas assez mis en avant. C'est pourquoi la FCE organise ce type d'événement pour mettre en lumière l'engagement et le leadership au féminin. Et même s'il y a eu des avancées en 40 ans, il reste beaucoup de chemin à parcourir, souligne Barbara Vlaminck, présidente de la FCENC.
Cette journée anniversaire a été faite aussi pour ça, c'est pour nous faire connaître. Parce que souvent, on a tendance à travailler dans l'ombre, sans trop communiquer. Mais là, on a envie de faire savoir tout ce qu'on fait parce qu'on pense qu'on a un impact positif et qu'on peut encore améliorer cet impact. En tous les cas, on est dans le bon axe, ça c'est sûr. Et il y a encore tellement de choses à faire pour promouvoir la voix des femmes chefs d'entreprise dans le monde économique, dans la gouvernance économique, mais également pour transmettre l'envie aux femmes et aux jeunes de devenir entrepreneurs et également pour continuer à garder cette sororité entre femmes, chefs d'entreprise, et pour éviter cette solitude au poste et nous aider à nous former, à avancer tout ensemble.
3 tables rondes étaient organisées ce matin, dont une concernant l'ouverture régionale et internationale. Parmi les participantes, une représentante de la FCE Australie, mais aussi l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan.
Cette information que l'on vient d'apprendre, une enquête préliminaire pour détournement de fonds par une personne chargée d'une mission de service public a été ouverte à l'encontre de Michael Forrest, membre du gouvernement, et ce pour des frais de transport de personnes datant de 2023. C'est ce qu'annonce le procureur de la République, Yves Dupas, Elisabeth Noir.
L'ouverture de cette enquête préliminaire fait suite à un audit publié en août dernier par la Chambre territoriale des comptes qui relevait le poids croissant pour les finances des institutions du territoire des frais de déplacement des élus, notamment hors de Nouvelle-Calédonie. Le parquet de Nouméa a été avisé de l'engagement de frais de déplacement apparaissant particulièrement élevés de certains élus à l'occasion de missions à Paris. Yves Dupas relève qu'il ressort des éléments de la procédure que pour une mission organisée entre le 6 avril 2023 et le 17 avril 2023 à Paris, les frais facturés par la société de transport automobile pour les déplacements de Michael Forest dans Paris Intramuros et les transferts à Roissy-Charles de Gaulle s'élevaient à la somme de 8 871 euros, soit 1 058 000 francs CFP. Cette facture a été réglée par la Maison de la Nouvelle-Calédonie à titre d'avance de frais pour le compte du gouvernement. Toutefois, les services gestionnaires du territoire ont refusé de prendre en charge cette dépense comme étant non conforme au cadre réglementaire. Michael Forest a été entendu sur cette dépense. Il a reconnu que cette pratique, qui ne respecte pas le règlement, est courante dans notre administration, tout en s'engageant à ce que cette situation ne se renouvelle plus. Le parquet a orienté la procédure au titre d'une mesure de classement sous condition de versement d'une contribution citoyenne d'un montant de 150 000 francs au profit d'une association d'aide aux victimes. Yves Dupas qui précise que la situation d'un autre élu concerné par une dépense de transport d'un montant moins élevé, seulement 410 000 francs CFP pour une mission de 6 jours à Paris, fait l'objet d'investigations en cours. Le procureur de la République qui relève que la politique pénale du parquet vise à l'occasion du traitement de ces procédures à rappeler aux responsables publics leurs obligations en matière de gestion et de maîtrise des fonds publics et les impératifs de transparence comme d'exemplarité dans l'exécution de leur mission au service du seul intérêt général.
Merci Elisabeth Noir pour ces précisions et nous reviendrons bien évidemment sur cette enquête dans nos prochaines éditions.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Geneviève, Thierry, Florence, Michel, ce sont quelques-uns des auditeurs qui sont passés aujourd'hui à Radio Rythme Bleu pour déposer des cadeaux dans le cadre de notre opération Au cœur de Noël. Depuis lundi, les auditeurs se succèdent et manifestent leur générosité. Des jeux de société, des jouets de plein air, des poupées, les cadeaux sont déjà nombreux. Julie, elle, a amené des puzzles ce matin, écoutez.
C'était important de contribuer au bien-être des petits Calédoniens qui n'ont pas la chance d'avoir de cadeaux sous leur sapin de Noël. Voilà, c'est ma façon à moi de faire plaisir et de voir le sourire sur les petits gosses. Ce sont des puzzles, surtout, principalement pour faire de la cohésion, pour que les jeunes se retrouvent ensemble et puissent être sur autre chose que sur leur téléphone, par exemple, aussi.
Merci pour votre engagement. Vous le savez, tous les cadeaux apportés seront distribués aux familles qui rencontrent des difficultés et qui auront du mal à gâter leurs enfants pour cette période de fin d'année. Grâce à vous, ce sera fait. Merci à tous ceux qui sont déjà passés. Merci à tous ceux qui continueront de répondre à notre appel pour illuminer le Noël de tous les enfants. Et puis on termine avec du sport et du padel sur le territoire. Les quarts de finale de la Casino Padel Cup ont démarré à 18h avec de très belles affiches au programme. Chez les hommes, on notera notamment les Australiens qui sont opposés à la paire belge, les Tahitiens qui défient les tenants du titre espagnol. On aura également le droit à un choc entre les meilleurs Calédoniens, les frères Mono contre Ngodré Lapesley. Chez les dames, duel entre les Françaises et la paire Calédo-Tahitienne. On suivra aussi deux des meilleures Calédoniennes, Dilou Chobré contre les Australiennes. Les quarts de finale, comme je le disais, ont démarré à 18h et devraient se terminer aux alentours de 22h ce soir. Vous avez encore le temps pour vous rendre au TC Moncoffin, 18h23 après le sport, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo qui peut parfois être sportive, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, le ciel sera étoilé à légèrement voilé, sauf sur le nord-est où de bonnes averses se produiront encore. En effet, ça va être sportif. Et sur l'ouest où quelques averses s'attarderont en soirée. Le vent d'est à nord-est restera faible autour de 5 à 10 nœuds et souvent en dessous de 5 nœuds sur la côte ouest. Les températures minimales resteront élevées entre 19 et 24 degrés avec des valeurs plus fraîches, 15 à 18 degrés du côté des Loyautés. Demain matin, les nuages s'attarderont sur la côte est et la pointe nord en donnant des averses. Ailleurs, le soleil dominera, voilé par moments par des nuages élevés et quelques ondées pourront toucher le nord-ouest en fin de matinée. Le vent d'est soufflera entre 5 et 10 nœuds, avec 10 à 15 nœuds possibles sur l'extrême sud. Sur l'ouest, le vent sera d'abord très faible avant que les brises de sud ne s'installent autour de 10 nœuds. Et côté marée, elle se rabasse ce soir vers 19h19, c'est précis, puis autour de minuit 32 avant une nouvelle basse mer demain matin, prévue vers 6h35.
Merci beaucoup Pierre pour la météo mais aussi pour la technique, vous le voyez pas mais il est toujours là. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal, c'est la fin de cette édition.